Je m'appelle Benoît Fédry, je suis fondateur de Horse Leader et spécialisé dans le management émotionnel. Deux mots qui pourraient paraître antinomiques, mais que tout pousse à rapprocher aujourd'hui. Chez Horse Leader, nous sommes persuadés d'être désormais dans un monde où l'émotion prend une place primordiale dans la réussite personnelle et professionnelle. Intelligence émotionnelle, sérénité, empathie, concentration, instant présent, des mots puissants, mais qui pourraient paraître mystérieux. Comment les mettre en pratique? Sont-ils des concepts innés ou acquis par l'expérience? Pour compléter notre activité de formation managériale par le biais du cheval, nous avons voulu croiser différents points de vue sur ces notions. Nous sommes allés à la rencontre de spécialistes dans chaque discipline équestre, avec en toile de fond le management et l'émotion. Cavalier, jockey, entraîneur, meneur, driver, sélectionneur, coach, propriétaire, pour connaître leur avis, leurs pratiques et leurs conseils pour performer de manière durable. Aujourd'hui, nous rencontrons Benjamin Ayot. Benjamin Ayot est un véritable autodidacte et un touche-à-tout dans les domaines équestres. Toutes ses expériences lui démontrent que chaque chose apprise dans un domaine peut s'appliquer à un autre. Depuis plusieurs années, il mène de front sa carrière sportive et ses créations artistiques et cumule plusieurs professions. Meneur, directeur de spectacle, directeur général de Benjamin Ayot International Horse Academy. En tant que meneur d'attelage à 4 chevaux, il sera vice-champion du monde et d'Europe, 2 ans dans le top 10 mondial et 4 fois champion de France. Benjamin Ayot, bonjour.
Bonjour.
Tenez tout d'abord à vous remercier d'avoir accepté notre invitation et du temps que vous allez nous accorder. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et expliquer votre discipline équestre pour les non-initiés?
Je m'appelle Benjamin Ayot, je pense un passionné de chevaux qui aime le cheval dans tous ses aspects, en compétition en ce moment, en attelage, mais j'ai monté du grand spectacle. Je travaille les libertés, je travaille le dressage pur, je travaille les longues rênes, les sauts d'école, sauts d'obstacles, le dressage. Enfin, j'aime le cheval. J'aime le cheval dans toutes ses formes de mouvement, dans toutes ses formes de relations. J'ai utilisé le cheval dans des thérapies physiques, dans des thérapies mentales, dans la gestion de la délinquance, dans toutes les façons qu'on peut avoir de l'aborder dans le sport, dans son physique ou dans la relation à l'humain, et savoir ce que le cheval peut apporter aux hommes et avec tout ce que lui nous apporte. Voilà, c'est un peu, si je faisais une présentation, c'est ça le sens de ma recherche.
Très bien. Comment pourrait-on décrire le rôle d'un meneur en attelage et puis le rôle des équipiers?
Alors l'attelage, et pour ma part, l'attelage à quatre, c'est une des disciplines équestres dans laquelle on fait travailler plusieurs hommes et plusieurs chevaux en même temps. Donc en attelage à 4, on est toujours 3 sur la voiture d'attelage, hein, ce que les gens appellent une charrette. Mais les voitures sont très poussées, très sophistiquées, elles ont des systèmes de freinage, de suspension très spéciales, etc. Donc il faut harmoniser 4 chevaux et 2 autres personnes en plus du meneur. Le meneur est celui qui tient les guides et qui parle et communique avec les chevaux. Le premier groom, on appelle les deux coéquipiers qui sont derrière, le premier qui est juste derrière moi, lui est copilote, donc lui travaille toutes les trajectoires avec moi, comme un copilote en voiture, hein. Attention, angle droit à droite, à gauche, on a des codes de communication. Et le groom qui est arrière, lui tient la voiture stable au sol. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'état d'esprit de chaque personne sur la voiture influence les chevaux, parce que les chevaux sont des proies. Nous sommes des prédateurs, et un prédateur stressé sur la voiture, même si c'est pas lui qui tient les guides, influence et impacte l'attelage. Donc là, ça devient très intéressant, c'est-à-dire qu'il faut réussir à amener une neutralité et une positivité dans l'état d'esprit des personnes qui sont sur la voiture, et à gérer ça pour que l'attelage puisse fonctionner en étant libre mentalement, et que les chevaux n'aient pas et ne sentent pas de pression psychologique, tout simplement de leur état naturel. Voilà. Parce qu'un prédateur stressé, c'est en général le signe d'une attaque qui n'est pas trop loin. Donc les chevaux, comme ils sont mis dans le grand mouvement en avant, donc pour eux, dans la fuite, eh ben, très vite, les chevaux peuvent se mettre à stresser. Donc le travail du meneur, c'est de travailler l'équilibre du mental des personnes qu'il a avec lui, du mental des chevaux, et de créer de sorte de mettre tout ça dans un instant présent, tout simple, en tout cas dans la plus grande simplicité, pour que la communication entre deux espèces différentes puisse être fluide, sans, on va dire, problème de communication, en utilisant le moins d'aide possible, c'est-à-dire le moins de systèmes mécaniques qui permettent de contenir les chevaux, mais en essayant de fonctionner le plus librement avec eux. Donc ça, c'est la théorie. Après, en pratique, le meneur doit repasser pour moi au filtre des outils qu'il utilise et d'enlever le maximum de force par rapport aux chevaux et d'enlever le maximum de force par rapport aux gens pour réussir justement à avoir une communication la plus libre possible de part et d'autre, qui a une possibilité de communication. Et la communication ne veut pas dire juste qu'on donne des ordres, mais veut dire aussi qu'on reçoit des sensations et qu'on rebâtit autour de ces sensations-là.
Pourriez-vous expliquer votre discipline en quelques mots pour les non-initiés ?
La discipline de l'attelage à 4 chevaux, elle se passe en 3 phases. Une première phase, vous devez faire une reprise de dressage avec les 4 chevaux qui tirent donc une voiture d'attelage. Et la première phase, c'est une reprise de dressage. Cette reprise de dressage, on la fait sur un rectangle qui fait 40 mètres par 100. Et on a une succession de figures, un peu comme en patinage artistique. Il y a 5 juges autour de la piste qui vous jugent figure par figure. C'est l'équivalent du dressage monté ou du dressage de concours complet. Juste, il y a 4 chevaux. Et voilà, donc vous avez des arrêts, des reculés, des départs, des allongements, des épaules en dedans, etc. C'est du dressage, du dressage. Le lendemain, on change de voiture. On change de calèche, on met une voiture de marathon. Cette voiture de marathon, elle a des suspensions spéciales, un système de freinage spécial, elle est beaucoup plus lourde, elle est beaucoup plus stable, elle permet d'aller beaucoup plus vite. Et là, on part sur ce qu'on appelle le marathon. Le marathon, c'est l'équivalent du cross en concours complet. Là, on doit passer dans des gués, monter des talus, il y a tout un tas de parcours qu'on appelle des obstacles. Ces obstacles sont montés avec des portes ABCDEF, vous devez les passer dans le bon sens, et elles sont évidemment en terrain varié et avec des difficultés de virage très complexes. Vous les apprenez avec votre équipe de coéquipiers. Les chevaux n'ont jamais vu le parcours, par contre, ils le découvrent, et vous devez évidemment aller le plus vite possible sans faire d'erreur de parcours là-dedans. C'est une épreuve qui dure à peu près, qui représente entre 15 et 20 km de parcours. Et les 8 zones qui sont vraiment complexes représentent à peu près 8 fois 1 minute répartie sur ces 15 km. Et c'est ce temps-là qui est chronométré, qui va vraiment impacter le résultat. Et le troisième jour, il y a une épreuve de maniabilité. Cette maniabilité, c'est un parcours comme un CSO, comme un jumping, sauf que les obstacles sont représentés par des quilles surmontées de balles, avec 20 cm en plus de la largeur de la voiture. Et vous devez passer entre ces quilles le plus rapidement possible, sans les faire tomber. Il y a encore un parcours défini d'une vingtaine de difficultés. Donc le dernier parcours, comme le jumping, enfin le saut d'obstacle en concours complet, est là pour vérifier que les chevaux ont été gentiment menés ou bien menés pendant le marathon de la veille, pendant le cross, et savoir s'ils sont encore capables d'être précis, fluides sur la dernière épreuve. Donc voilà l'enchaînement de ce concours complet d'attelage. Pour amener 4 chevaux sur un concours, on a droit à 5 chevaux. Et il y a donc un réserve qui peut changer. On peut utiliser dans ces 5 chevaux les 4 chevaux les plus adaptés à chaque épreuve. Et on a la liberté d'utiliser 4 des 5 chevaux sans contrainte. Et par contre, les personnes, il y aura toujours 2 personnes avec nous sur la voiture, quelle que soit l'épreuve.
Et alors, dans les chevaux, il y a aussi des meneurs ? Ils ont, j'imagine, des caractères différents.
Oui, ils ont des caractères différents. C'est toute la chimie de l'attelage à 4. L'attelage à 4, il y a des chevaux qu'on appelle les chevaux de volée. Les leaders en anglais qui sont les chevaux avant. Les timoniers qui sont de part et d'autre du timon, qui est cette barre qui permet d'assurer la direction de la voiture, qui sont les chevaux arrière. C'est vraiment, l'arrière est un cheval de force, on va dire, qui prend le poids et la charge de la voiture. Les chevaux avant sont plus des chevaux de courage. Et de présentation en dressage, parce qu'ils doivent arriver avec des allures les plus exubérantes possibles. Voilà. Donc c'est très, très intéressant, mais par expérience, on s'est retrouvé à mettre des timoniers devant et qui étaient bien meilleurs devant. Donc on a une idée de qui va être à quel poste. Mais dans le travail, on les travaille à 1, on les travaille montés en liberté, on les travaille en attelage à 1, en attelage à 2 et en attelage à 4. Les chevaux, en fait, passent dans tous les postes. Il faut imaginer que c'est une équipe de foot. On joue à tous les postes, évidemment. Après, vous avez un poste de prédilection qui sera votre poste pour les grandes épreuves. Mais à l'entraînement, vous allez travailler tous les mouvements de partout. Et justement, c'est là qu'on va réussir à créer les harmonies et faire que les chevaux vont pouvoir, entre guillemets, se former entre eux en expliquant à l'autre cheval ses points de force. C'est-à-dire le cheval qui est fort va pouvoir apprendre la force à tout le monde. Le cheval qui est courageux va apprendre le courage à tout le monde. Et j'aime bien cette idée de partage de forme de caractère. Quand vous fréquentez quelqu'un qui fait la fête, en général, vous vous mettez à faire la fête. Et quand vous rencontrez un studieux, vous vous mettez à être studieux. Quand vous rencontrez un fort dans un attelage et que vous êtes un cheval, vous devenez un peu fort. Et quand vous rencontrez un courageux un peu délinquant, vous devenez un peu courageux délinquant. Donc il y a plein de choses comme ça et de formes d'échange et de partage de connaissances entre les chevaux qui se passent de cette façon-là.
La connaissance des chevaux est primordiale pour réussir.
Mais là, je pense que de toute façon, dans le sport équestre à haut niveau, la connaissance des chevaux est la fondation. Et après, de là, vous pouvez durer, vous pouvez travailler dans le temps, vous pouvez changer de chevaux, vous pouvez... On voit des cavaliers dans toutes les disciplines ou des meneurs qui ont changé plusieurs fois de grands chevaux de concours et qui sont toujours là. Et de temps en temps, on voit des cavaliers ou des meneurs arriver avec un cheval ou un attelage ou un cheval d'obstacle et qu'on ne verra plus et qui pourtant était à haut niveau. Donc c'est vraiment la fondation pour moi d'un homme de cheval, c'est cette connaissance large du cheval. Et c'est pour ça qu'il faut à mon avis, avant de spécialiser un cavalier dans une discipline, il faut surtout lui faire parcourir le cheval dans tout ce qu'il est, dans toutes les formes de relations qu'il a à l'homme, dans tous les types de mouvements, pour pouvoir justement avoir plein de capacités dans tous les sens pour exploser en course, à l'obstacle, en dressage, en jumping ou quoi. C'est, pour moi, c'est après le cheval est un artiste, hein, donc il faut lui donner le maximum de connaissances et de compétences possibles. Et l'homme qui partage ça avec lui, forcément, prend aussi ces connaissances-là. Donc quand vous mettez les chevaux dans des épreuves de vitesse, et puis après que vous les rassemblez, vous apercevez qu'ils rassemblent plus après avoir travaillé sur des formes de vitesse. Quand vous les rassemblez, vous apercevez qu'ils vont plus vite. Les opposés se complètent. Et c'est très intéressant en biomécanique, mais aussi mentalement, d'amener les chevaux dans tous ces univers-là et de partager ces moments-là avec eux. Puis c'est beaucoup moins ennuyant pour nous parce qu'on ne fait pas que... Moi, je fais surtout pas que mener. Les gens connaissent l'attelage, mais on monte plus à cheval qu'en attelle, par exemple. On fait beaucoup de liberté, on fait beaucoup de travaux à pied, on fait beaucoup de longues rênes, on fait plein de travaux différents avec les chevaux, justement pour cultiver cette base-là et ces fondements-là.
Au vu de votre parcours, là, vous me parliez de durée et de longévité. Nous pouvons dire, alors parcours en compétition, hein, nous pouvons dire que vous performez de manière durable. Quelles sont pour vous les conditions à réunir ?
Ben, performer de manière durable, c'est d'avoir le socle de connaissances des chevaux le plus large possible. Ça, c'est sûr, parce que plus vous avez de bases équestres multiples, plus vous avez de réponses multiples. À la maison, je fais les chevaux de concours, je travaille sur des manipulations en ostéo, en éthiopathie. On travaille les chevaux sur le plat, les chevaux sont rassemblés. J'ai été écuyer en chef au Raad Lipica pendant 3 ans. J'ai dirigé la compagnie de Cavalia, compagnie en spectacle en tournée à travers le monde pendant des années. Donc en fait, cette base-là te permet d'avoir des réponses quand quelqu'un va chercher dans une discipline et va chercher une réponse en attelage, en l'occurrence, par exemple. Il va chercher une réponse en attelage. Moi, je vais peut-être avoir une réponse aux longues rênes, une réponse à pied, une réponse en liberté, une réponse montée, une réponse alimentaire, une réponse en maréchalerie. Après, on ouvre les réponses possibles. Et de là, on peut commencer à développer peut-être des solutions. Et forcément, pour durer, il faut être capable de transformer tous les chevaux et les amis qu'on rencontre en grands compétiteurs. Et à partir de là, forcément, on n'a pas que les meilleurs chevaux, on n'a pas que les meilleures personnes, on n'a pas que... Enfin, ça n'existe pas, il faut tout construire. Et c'est la capacité de construction, elle est dans la trousse à outils que vous avez et dans la capacité que vous avez à dire « J'ai découvert dans telle discipline que ça, ça pouvait m'aider pour le rassembler. J'ai découvert dans telle discipline que ça pouvait m'aider pour ça. J'ai une expérience sur les embouchures parce que la relation... En attelage, le contact à la main, c'est mon seul lien mécanique avec les chevaux. J'ai découvert dans l'équitation que je pouvais utiliser certains types de mouvements pour articuler les dos différemment, etc. Et donc, il faut aller piocher dans tout ça. Et je pense que la durée, elle tient en ça. Et après, au plaisir que l'on garde avec les chevaux, parce que s'il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de longévité, il n'y a plus rien. Donc, il faut que le plaisir reste intact. Et pour qu'il reste intact... C'est comme à table, il ne faut pas manger tous les jours la même chose. Si vous ne faites que sauter des barres, à la fin, ça peut vous sortir par les yeux. Ou si vous ne faites que mener, c'est la même chose. Donc il faut être capable de varier les menus, à la fois pour les chevaux et pour les hommes. De cette façon, on garde le plaisir intact, voire même on peut le développer sans limite.
Ce qui veut dire qu'un meneur apaisé apporte et au cheval et à son équipe.
De toute façon, on voit par expérience que les meneurs qui sont sereins gardent des équipes longtemps, gardent des chevaux longtemps. On voit que la sérénité apporte de la longévité dans le sport. Donc le sport, c'est un champ d'exploration super intéressant parce que justement, on pousse toutes les mécaniques humaines et équestres le plus loin possible. Donc si un meneur arrive à préserver les hommes et les chevaux autour de lui, ça veut dire que la gestion de cette énergie-là, elle est assez... Elle est assez bonne. Si, quand ça change beaucoup, ça veut dire qu'on a des problèmes de gestion et de forme de communication. Donc le côté apaisé n'est pas quelque chose pour moi de négociable avec les chevaux. Puisqu'on est des prédateurs, ils sont des proies. Donc c'est pas possible d'être autrement qu'apaisé pour pouvoir entrer en communication. Si on n'est pas apaisé, on est forcément dans le rapport de force avec le cheval puisqu'il va réagir à ça. Donc il va vouloir nous fuir parce qu'il se sent en danger. Et parce qu'il fuit, il va falloir le tenir. Pour pas qu'il fuit. Et après, on rentre dans une escalade qui devient une escalade mécanique. Et après, cette escalade-là crée des douleurs, crée des contraintes qui augmentent et amplifient ce phénomène-là.
Sur la régulation émotionnelle, avez-vous des techniques ou des pratiques
Oui, au fur et à mesure qu'on travaille dans le sport de haut niveau, on rencontre... D'abord, on met en place nos petits systèmes et astuces. Puis après, moi, j'ai fait du sport haut niveau en volleyball. J'ai rencontré des grands préparateurs mentaux. On a travaillé avec toutes sortes de techniques qui permettent justement à la fois de régler les rythmes cardiaques, les rythmes respiratoires et d'avoir une gestion qu'on appelle gestion du stress, on va dire. De façon à arriver à cette neutralité, mais il faut réussir à laisser passer quand même toutes les émotions et toutes les communications. C'est-à-dire, il ne faut pas devenir non plus un zombie apaisé, mais qui est impotent parce qu'il n'a plus une forme d'adrénaline. Il faut réussir à laisser une liberté entre je gère mon stress, mais à la fois, je ne me mets pas dans un état léthargique, je reste compétitif ou je reste actif dans la discussion.
Pouvez-vous justement me parler de la connexion aux chevaux? Est-elle importante? À quoi vous sert-elle?
La connexion, pour moi, elle est la recherche, le but et l'intérêt. Si on ne raisonne pas la connexion avec le cheval, pour moi, on ferait mieux de faire du quad ou de la moto ou de la voiture, mais pas de l'équitation. Le seul intérêt de l'équitation, c'est de travailler cette connexion-là, c'est de travailler la discussion, la relation au cheval et les formes de discussion possibles. La discussion, quand vous êtes avec quelqu'un que vous connaissez très bien, d'un regard, du coin de l'œil, avec rien, vous savez si vous êtes d'accord, pas d'accord, avec ce qu'une tierce personne a dit. On arrive à la même chose avec les chevaux, à savoir, le cheval sait s'il a besoin d'être soutenu sur une courbe et que je lui fais confiance, à la fin, il sait très bien que je lui fais confiance et que j'attends de lui quelque chose. Et il me le rend et presque on se sourit au même moment. Donc on arrive à ces formes de complicité-là. Mais c'est l'élaboration d'une discussion. Et cette discussion n'est possible que si vous êtes attentif à ce que le cheval, physiquement et mentalement, n'ait pas de contraintes. C'est-à-dire que oui, on peut faire du sport, mais le sport ne veut pas dire souffrance. Le sport veut dire éducation physique. Mais il ne faut pas associer le sport à la souffrance. Enfin, je vois des gens qui font du sport et des gens qui n'en font pas. En général, ceux qui font du sport se portent mieux que ceux qui n'en font pas. Donc il faut considérer que l'exercice chez le cheval, c'est la même chose. Mais à partir du moment où les systèmes utilisés ne sont pas des systèmes de coercition qui sont trop puissants et qui font que le cheval ne peut pas s'exprimer. Donc il faut laisser la place à l'expression pour le cheval, à son équilibre mental. Il faut que le cheval soit heureux quand il fait son sport, on va dire. Et de cette façon-là, il peut rentrer en communication. Dès qu'il y a le moindre soupçon d'une souffrance physique, hein, vous le voyez, si je vous fais courir au-delà de vos capacités, à un moment donné, si je vous demande d'être sympathique avec moi, vous allez m'envoyer bouler parce que vous ne pouvez pas être sympathique à ce moment-là, parce que vous êtes en souffrance. Et le cheval, ça va être la même chose. Si à ce moment-là, vous lui demandez quelque chose et que vous l'avez amené dans cette zone-là, il est plus capable. Donc il faut réussir à mettre des capacités physiques chez les chevaux, physiques et mentales, qui permettent de garder un système de communication qui reste fluide. Pour ça, il faut s'attacher au fait du respect de l'intégrité physique et morale des chevaux.
Alors justement, au championnat d'Europe 2019, vous terminerez deuxième, vous êtes premier de la partie dressage et vous dites « Les chevaux étaient juste là, je vous cite, hein, juste là, présents, sereins et fiers ». Est-ce que vous pourriez expliquer cette phrase ?
Je me rappelle très bien de la préparation de ce championnat. J'avais décidé d'arriver très tard par rapport à toute la concurrence. Et je suis arrivé le dernier camion de tous les championnats d'Europe. Je me suis garé là où il restait de la place. Et on a fait une préparation où j'ai passé mon temps à... Les coéquipiers derrière m'entendaient, ils revenaient souvent avec ça, et je disais souvent dans le travail, je vous fais confiance, je vous fais confiance, je vous fais confiance. En fait, pour réussir à un moment donné à travailler moins que tout le monde dans la préparation, parce que souvent, les périodes de préparation avant une épreuve, vous vous rassurez plus, vous, que vous travaillez vos chevaux. Si on est au championnat d'Europe, normalement, c'est que les chevaux sont prêts pour ça. Si on a été sélectionné, si on est dans le coup de ça. Donc, les chevaux sont prêts pour ça. Et les temps de détente sont souvent des temps pour rassurer le meneur et toute l'équipe, pour rassurer les hommes. Un cheval qui connaît son métier, il a besoin d'être préparé physiquement, il a besoin d'être préparé mentalement, mais il n'y a pas besoin d'être, on n'a pas besoin de rabâcher une leçon. Un cheval a une perspicacité bien plus, une acuité bien plus développée que nous, dans sa capacité à reproduire quelque chose qu'il connaît. Donc je me suis amusé à réduire tous ces temps de détente, à réduire tout, et à aller jusqu'à juste l'essentiel de dire « je vous fais confiance, vous avez une préparation, un équilibre, quelque chose de très posé ». Et quand tout le monde était en train de travailler très fort, mais moi j'étais plutôt arrêté dans un coin, plutôt à juste essayer d'être simplement là. Et quand on a mis toute cette mécanique en route, hein, les choses sont exprimées d'une façon géniale. Et chaque proposition que j'ai faite pendant cette reprise de dressage-là, chaque proposition, les chevaux surenchérissaient tout seuls. C'est-à-dire que si je demandais un allongement au trot, ils partaient deux fois, trois fois plus fort que ce que j'aurais pu attendre en étant sans cette façon-là de préparer. Si je demandais un arrêt, ils allaient chercher un arrêt avec un équilibre et une énergie incroyable. Et chaque proposition de toute cette épreuve-là, mais pas juste l'épreuve de dressage, mais on a fait tout le concours de cette façon-là, il n'y a pas eu une trajectoire où les chevaux n'ont pas donné, surenchéri plus que ce que je demandais. En disant, ouais, oui, on donne, oui, on remet, et oui, on remet encore. Et les chevaux ont réattaqué tout du long comme ça. Et ça donne une sensation, à un moment donné, une forme d'épreuve en équilibre. C'est-à-dire qu'on ne force rien, tout tombe dans le sens, il n'y a pas de force, il n'y a pas de... Il n'y a rien, c'est ultra fluide, c'est la création de ces moments d'harmonie entre les hommes et les chevaux, et puis là il faut qu'il y ait quatre chevaux qui doivent tomber, on va dire, à la même heure, au même moment, quoi. C'est vraiment, il faut réussir à régler cette horloge-là, qui est une horloge physique, mentale, et qui en plus vous est imposée, vous passez à 14h52, vous ne passez pas à 53, vous ne passez pas à 40, vous passez à 52, point barre. Et ça qui est intéressant pour la compétition, c'est de vérifier qu'on est capable d'impacter sur cette horloge-là et de faire qu'à 52, les chevaux rentrent en piste et ils sont dans un état. Et cet état est physique et mental. Et pour l'y amener, ben ça prend la sérénité dont vous parliez tout à l'heure. Ça prend cette espèce de contrôle de soi pour que les chevaux puissent se livrer en confiance. Et la confiance n'est possible que quand ils sentent que la personne est aimable. Point barre. On peut vous aimer si vous êtes aimable. Si vous n'êtes pas aimable, on ne peut pas vous aimer.
Alors justement, vous qui managez une équipe, je peux dire que vous managez également des chevaux. Est-ce qu'il y a des passerelles? Est-ce qu'il y a des transpositions entre l'un et l'autre?
C'est plus que des transpositions. C'est que le terme manager vient du latin managere. Et managere en latin veut dire celui qui mène les chevaux au manège avec sa main, avec sa mano. C'est l'étymologie du terme manager. Donc c'est plus que ça veut dire qu'on a estimé dans l'étymologie que celui qui menait les chevaux, qui les dressait, qui les éduquait, est devenu dans l'étymologie le manager des hommes. Donc ça c'est pour moi la passerelle la plus historique, on va dire. Elle est juste trempée dans le temps. Ensuite, le cheval est un des seuls. Vous savez, on entend à la télé, dans une situation comme on est là, avec le Covid et tout ça, on entend tout. Vous entendez des spécialistes dire qu'il faut porter un masque, des spécialistes qui vous disent qu'il ne faut pas porter le masque, des spécialistes qui disent qu'il faut se vacciner, d'autres qui disent qu'il ne faut pas vacciner. Ils sont tous des spécialistes. Alors, qui croire? Vous avez des spécialistes qui ont un curriculum vitae grand comme un livre, qui disent l'inverse d'un autre qui a aussi un curriculum vitae grand comme un livre. Et en fait, face au cheval, dans cette relation-là, le cheval vous donne une vérité qui est la sienne, mais par contre, on s'aperçoit que cette vérité du cheval est immuable, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas. Sa vérité à lui, par rapport à la sensation, la peur qu'il a de l'autre, parce que c'est son moyen de survie, le cheval utilise ses jambes pour fuir, il ne rentre pas dans le rapport de force, il l'évite. En essayant de partir, il n'y a que quand il pense qu'il ne peut pas l'éviter, qu'il se permettra d'attaquer. C'est-à-dire, s'il est coincé, un cheval peut taper ou se venger, ou s'il se sent tenu ou coincé. S'il n'est pas tenu et coincé, il va toujours utiliser ses jambes et partir, en disant « je ne rentre pas dans la bataille ». Et ça, c'est une vérité, elle est génétique, elle est programmée chez lui, et c'est ça qui fait sa noblesse, c'est qu'il ne veut pas rentrer dans le rapport de force, alors que nous sommes des prédateurs. Et nous avons la différence entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes rentrent facilement dans le rapport de force et les femmes moins. C'est pour ça qu'il y a plus de femmes qui font de l'équitation que les hommes, à mon avis. Parce que justement, comme elles ne rentrent pas dans le rapport de force, elles rentrent plus facilement en communication avec le cheval. Pour revenir à cette histoire-là, donc quand on se met face à un cheval, on a une forme de vérité sur notre comportement qui n'est pas une vérité d'un spécialiste, d'un psychologue, d'un docteur, ou d'un pro du management, c'est la vérité du cheval. Et cette vérité-là, vous prenez un poney Shetland, un Shire, un pur sang anglais, un pur sang arabe, vous prenez un cheval, un équidé, et vous avez toujours cette vérité-là, et elle tombe toujours avec la justesse de là. Et c'est cette vérité-là qu'on peut utiliser dans le management humain et qu'on viendra à utiliser de plus en plus. Parce qu'à la fin, on ne sait plus où est la vérité, et je pense que le cheval peut nous aider à nous repositionner dans la relation à l'autre, avec une forme de justesse, sans qu'elle soit imprimée par quelqu'un qui pense avoir la justesse.
Donc si vous aviez un conseil à donner aux managers qui nous écoutent,
Le cheval devrait être dans toutes les salles de management. J'ai toujours dit que le cheval devrait être une obligation à l'école, devrait être une discipline scolaire. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant, c'est de l'amener au chevaux. Le plus beau cadeau dans sa confiance en lui, dans son développement, dans sa façon de s'exprimer, dans sa capacité à s'exprimer ou à communiquer, même si c'est d'autres formes de communication que la parole. C'est une forme de communication qui est basée sur la confiance, obligatoirement. Mais nous fonctionnons et nous communiquons humains sur ça. Quand il y a quelqu'un rentre dans la salle et que vous ne sentez pas, vous n'êtes pas amené à vouloir lui parler, mais vous ne savez pas pourquoi. Vous sentez qu'il ne faut pas aller parler, mais vous ne pouvez pas l'expliquer. Le cheval, c'est ça tout le temps. Et du coup, pour gagner la confiance, il faut devenir aimable et apprendre à pouvoir communiquer. Et la communication, ce n'est pas les mots. Les mots, pour moi, c'est la fin du traité. C'est ce qu'on signe à la fin. Mais avant, il y a toute l'émotion qui doit envoyer l'information, savoir si je suis en danger, pas en danger, savoir si je suis accepté, pas accepté, si je suis jugé, qu'est-ce qui se passe. Et ça, tout passe par l'émotion. Et après, on met des mots là-dessus. Et notre problématique, je crois, nous, en tant qu'humains, c'est qu'on met des mots qui correspondent plus. Tous les gens vous disent bonjour, ça va. Ils n'écoutent pas la réponse. Ils vous répondent en disant ça va. C'est assez incroyable. Les gens ne vous regardent pas dans les yeux en vous disant bonjour, etc. Les gens ne disent pas bonjour, de moins en moins. Donc on est vraiment dans cette problématique-là. C'est-à-dire qu'on met des mots. Si vous posez la question à quelqu'un et lui demandez si ça va, il va vous dire oui 99% des fois. Alors que ce n'est pas vrai que 99% ça va. C'est pas vrai. C'est pour ça qu'on pose la question. Est-ce que ça va? Oui ou non? Ou un peu, ou pas trop, ou je suis fatigué, ou... Enfin, il peut y avoir tellement de nuances à l'intérieur de ça. Et on répond plus à ça. Une fois que vous commencez à dire bonjour en pensant « tu m'emmerdes », ou à dire bonjour avec hypocrisie, ou à dire au revoir en pensant « je suis content de plus te revoir », on commence à mettre des mots qui correspondent plus à des émotions. Et là, on trahit le système de communication. Mais avec le cheval, ça passe pas. Cette trahison-là, elle est de suite relevée. Le cheval, il réagit, lui, pas à ce qui est dit dans les mots, mais il réagit à ce qu'il ressent. Et une fois qu'il a réagi à ce qu'il ressent, vous avez une réponse sur ce que vous lui avez envoyé. Donc, vous recevez ce que vous lui avez envoyé. Ça nous permet de le lire, nous, en tant qu'humains, et donc de développer et de s'adapter à lui pour pouvoir commencer à se corriger, en fait, tout simplement, pour réussir à pouvoir communiquer. Et je pense que la communication humaine va se développer beaucoup en retravaillant les communications animales.
Benjamin Alliot, je vous remercie.
Avec plaisir, merci.
Pour clôturer cet épisode, je vous propose une lecture managériale de mes échanges avec l'invité. Je transposerai donc trois mots répétés plusieurs fois par Benjamin Alliot. L'harmonie, la sérénité et la connexion. La connexion tout d'abord, qui est à la fois la recherche, le but et l'intérêt. Une connexion à soi, puis une connexion à l'autre. Si un manager ne pense pas la connexion et n'aime pas la connexion à l'autre, autant qu'il travaille avec des machines. La connexion passera tout d'abord par la connaissance de son équipe, qui en est la fondation. Performer, c'est donc connaître les gens avec qui on travaille et les placer à leur juste place. Cette connexion pourrait également s'appeler l'intérêt que l'on porte à l'autre. Cet intérêt créera la relation, et le point d'entrée de cette relation, c'est la sérénité que le manager va dégager. L'influence et l'impact du manager sur le comportement de son équipe est énorme. Donc plus il sera serein, plus il gardera ses équipes longtemps. L'enjeu étant d'arriver à fonctionner de manière simple et positive. Être apaisé ne devrait donc pas être négociable dans la relation à l'autre, sinon un rapport de force s'installerait, engendrant la fuite du collaborateur. La sérénité permettra à l'équipe de se livrer en confiance. Un manager qui prend soin de lui pourra ensuite s'occuper des autres. La connexion et la sérénité devront donc permettre de créer l'harmonie au sein de son environnement professionnel. Créer une harmonie pour qu'une équipe puisse fonctionner en étant libre mentalement, sans pression psychologique. Créer une harmonie pour permettre l'apprentissage mutuel et le partage entre les membres de l'équipe. Amener une positivité dans l'état d'esprit des personnes. Développer du plaisir à travailler ensemble en réduisant les points de gêne. Car là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Rappelez-vous que l'on ne motive pas quelqu'un, mais on crée des conditions favorables ou non à la motivation. La connexion, la sérénité et l'harmonie en font partie.
Le cheval devrait être l'une des bases du management.